Moins il y a de personnes sachant la vérité, mieux ça vaudra. Avec la Stasi, on ne plaisante pas.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Le cas de la RDA, comment vivre dans un état totalitaire? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Emmanuel Droit. Aujourd'hui, quatrième épisode, l'éducation de la jeunesse, une priorité de la RDA. Dès sa création en 1949, la RDA a pour ambition de faire table rase du passé nazi de l'Allemagne et de forger un homme nouveau au service d'une société socialiste parfaite. Pour y parvenir, première chose, prendre en charge l'éducation totale des enfants qui, contrairement à leurs parents, apprendront dès leur naissance les valeurs socialistes, c'est-à-dire la paix, l'égalité, la justice, la solidarité entre les peuples, mais aussi la soumission aux partis. L'école est donc un lieu essentiel de la fabrication de l'homme nouveau et les enseignants, ses propagateurs zélés. Cela commence le plus tôt possible, dès la crèche. La RDA était réputée pour le nombre impressionnant de ses crèches, ce qui permet à tous les parents d'aller travailler, le père comme la mère, plutôt positif. Mais le programme pédagogique de ces crèches, très normatif, a de quoi faire frémir. Comme on peut l'entendre dans ce reportage réalisé en 1978 par la radio-télévision suisse. Une directrice de crèche explique son fonctionnement.
Nous avons en RDA un programme d'éducation uniforme, socialiste. Et quand nous remarquons un retard dans le développement d'un enfant, nous parlons avec les parents. Ensuite, nous demandons aux parents leur collaboration pour que nous ayons vraiment un niveau uniforme à la maison et dans notre établissement.
C'est donc vous, crèche, qui dirigez effectivement l'éducation de l'enfant?
Oui, on peut le dire.
C'est donc la crèche qui dicte aux parents l'éducation des enfants.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
À partir des années 1960, les écoles est-allemandes sont de plus en plus imprégnées des valeurs militaires. Elles sont tenues de valoriser auprès des élèves la défense de la nation. « Tu dois aimer ta patrie », dit le commandement, et être toujours prêt à engager toutes tes forces et tes capacités pour défendre l'état des ouvriers et des soldats.
Déjà à la maternelle, les enfants apprennent à se familiariser avec l'équipement d'un soldat. Vouloir rejoindre l'armée, devenir un héros, tels sont les objectifs de l'instruction militaire obligatoire dans les écoles. Une étoile rouge brille sur leur képi. Ils défendent notre patrie contre les ennemis. Qui sont ces amis fidèles? Ce sont les soldats soviétiques. À partir du mois de mars et jusqu'au mois de mai, des rencontres régulières ont lieu entre les soldats et les enfants. On apprend aux écoliers le maniement des armes, la signification des décorations, la nécessité de la discipline et l'exécution précise de tous les ordres militaires. Plus d'un million de jeunes pionniers, ils ont moins de 12 ans, apprennent ainsi à jouer à la guerre.
Mais la formation de l'homme nouveau ne se fait pas qu'à l'école. Les enfants sont également pris en charge, en dehors des cours, par des organisations de jeunesse, les jeunes pionniers de 6 à 15 ans, puis la jeunesse libre allemande, les jeunes du parti. Les pionniers ont l'honneur de défiler et de chanter pour les fêtes officielles, l'anniversaire de la RDA, le jour de l'armée, le 1er mai, etc. Le projet de création d'un homme socialiste, nouveau, inclut aussi un rituel quasiment religieux, la Jugendweihe, un rite de passage vers le monde adulte, fixé à 14 ans, où les jeunes doivent prêter serment de fidélité au régime. Il arrive aussi que la Stasi s'invite à l'école. En 2015, une députée allemande, Angela Marquardt, née en 1971, a publié un livre où elle raconte son enfance à l'Est et surtout le fait qu'à 14 ans, elle avait été enrôlée, malgré elle, comme collaboratrice inofficielle, IM, par la Stasi, qui l'avait chargée d'espionner une camarade de classe. Alors qu'Angela voulait faire des études de judo, la Stasi lui a ordonné de s'inscrire en théologie dans le but d'espionner les étudiants chrétiens. Après la chute de la RDA et la réunification, elle a découvert dans son dossier de la Stasi que ses agents avaient planifié sa vie jusqu'en 1995.
Ce mot me fait encore du mal quand je l'entends. Il me renvoie à ce que j'étais quand j'avais 15 ans, et je sais comment j'étais à l'époque. Je me souviens très bien de ce que j'ai pu raconter à ces personnes. En exagérant, je dirais que ces gens étaient comme mes parents. Ils s'occupaient de moi, et je leur devais quelque chose.
Emmanuel Droit, on voit que la RDA a mis beaucoup de moyens pour l'éducation, donc construire des crèches, des écoles, des universités, des écoles mixtes aussi, filles-garçons, beaucoup plus tôt qu'en France par exemple, mais à un prix très élevé. Jusqu'à quel point la RDA a-t-elle réussi à endoctriner la jeunesse est-allemande ?
Oui, on voit bien que la RDA n'est pas seulement un régime de contrôle des institutions, c'est aussi un régime de l'idéologie vécue. Et donc la jeunesse, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant même la création de la RDA, était au cœur de ce projet prométhéen de créer l'homme socialiste nouveau, la nouvelle personnalité socialiste. Et donc ils ont investi énormément de moyens institutionnels, humains, organisationnel pour encadrer cette jeunesse à partir de la crèche. Et ce projet idéologique va se heurter tout d'abord à des générations qui sont nées à la fin des années 30 ou pendant la Seconde Guerre mondiale et qui voilà, sont pas forcément enclins à adhérer à ces valeurs socialistes. D'ailleurs, lors des événements du 17 juin 53, les lycées vont être le lieu de points de contestation où on va déchirer les tableaux de Pic ou d'Ulbricht, on va écrire sur les tableaux Ivan go home, les Russes dehors. Mais petit à petit, l'organisation scolaire et périscolaire fait que une sorte de chape de conformisme va s'abattre sur ces générations du socialisme réellement existant. Et si on veut faire carrière en RDA, on va devoir intégrer l'organisation des pionniers, puis ensuite la FDJ, faire sa Jugendweihe.
Il faut intégrer le parti, quoi.
Pas forcément le parti, mais il faut suivre ce cursus honorum, en tout cas cette trajectoire par l'encadrement des organisations de jeunesse, ne pas avoir de comportement déviant, sinon vous serez privé de lycée ou d'études supérieures, ce qui arrive à des jeunes lycéens qui, par engagement politique, vont, par exemple, en 1956, dénoncer l'écrasement de la insurrection hongroise de Budapest par les soviétiques, mais qui vont le payer très cher, en fait. Alors, ils vont pas être emprisonnés, mais c'est une sorte de mort sociale, puisque au lieu de faire des études supérieures, généralement, quand on est au lycée, c'est qu'on a cette capacité à faire de belles études supérieures, ils vont se retrouver dans les usines, à la production, et donc c'est une sorte de punition sociale, de volonté de rééduquer par le travail ouvrier ces jeunes qui se sont, entre guillemets, mal comportés.
On a parlé de l'école, donc des organisations de jeunesse, mais il y a aussi, dans l'édification de l'homme nouveau, le sport qui est très important.
Alors, le sport est un facteur très important pour la légitimité internationale de la RDA, qui, je vous le rappelle, jusqu'en 1974, n'est pas un État reconnu internationalement. Et donc, ils vont construire leur légitimité internationale par le sport. Et pour avoir des sportifs de très haut niveau, il faut les détecter de manière très précoce à l'école, à travers des compétitions sportives qu'on appelle les Spartakiades, en référence au mouvement spartakiste. Et puis, ça va devenir une priorité de l'État, et à côté du développement de techniques d'entraînement très moderne et très innovante pour l'époque. Évidemment, le drame pour les sportifs est-allemands, c'est qu'ils vont, sans leur consentement, être l'objet de dopage aux stéroïdes anabolisants, sans le consentement ni des parents ni des enfants. Dès le plus jeune âge, on leur administre, soit par injection, des stéroïdes, ou alors on leur fait prendre des pilules, des médicaments, qui vont développer leur masse musculaire et leur permettre, en effet, de remporter de grands succès lors des compétitions d'athlétisme, de natation.
Ouais, le cas des nageuses est-allemandes est assez fameux.
Exactement.
On estime qu'il y a plus de 10 000 athlètes qui en ont été victimes, avec des conséquences dramatiques par la suite. Évidemment, cancer, malformations chez les enfants, et certaines femmes étaient tellement dopées aux hormones mâles qu'elles n'ont pas pu avoir d'enfants par la suite.
Exactement, c'est un drame personnel pour tous ces sportives et ces sportifs, parce que derrière, c'est pas seulement leur santé qui aujourd'hui est en danger, puisque vous l'avez rappelé, ils développent des cancers ou des maladies, mais aussi ce sentiment de trahison, puisque
d'avoir été trahi
pendant des années.
Ouais.
Et instrumentalisé.
Mais pendant toutes ces années, il y a eu aussi beaucoup de jeunes qui ont réussi à un peu à passer à travers, quoi, à traîner des pieds face à toutes ces manifestations patriotiques auxquelles ils étaient soumis.
Oui, alors il faut évidemment toujours prendre de la distance critique par rapport à ce discours normatif et à cette image que le régime voulait donner d'elle-même, c'est-à-dire une société homogène, sans division, sans conflit. Cette jeunesse, en fait, pouvait adhérer à certaines valeurs, le pacifisme, l'antifascisme, mais en même temps, elle était tournée vers l'Ouest, vers sa culture matérielle, vers la culture musicale, cinématographique. Et donc, le régime avait toujours du mal et oscillait entre la volonté de la contrôler et de l'encadrer très sévèrement, et puis un moment de relâcher un peu la pression pour permettre en fait une adhésion à minima de cette jeunesse.
Merci Emmanuel Droit. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la censure dans les médias et dans la culture.